Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour du magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille. Tous les dimanches à partir de 11h, après des vacances bien méritées, nous avons le plaisir de retrouver nos motards engagés. On commence avec Christophe Tillemont, qui nous propose un aperçu du sommaire du motomagazine d'octobre. Bonjour Christophe.
Bonjour la Miche, bonjour à toutes et à tous. Ça va, la
oui.
Reprise.
Oui, et toi?
Avec ces nouvelles. Alors là c'est gratiné. Hein.
Oui.
On a eu les Jeux Olympiques,
oui.
Et il y a après les Jeux Olympiques. Hein, donc je rappelle que depuis le 1er octobre, le périphérique parisien est limité à 50 km/h. Hein, et que les voies JO vont être réservées aux taxis, au covoiturage, l'interfil.
Enfin, dans le Nord, il est prolongé.
Ah oui, dans le Nord. Mais ce qui se fait à Paris, souvent...
Pourquoi il faut être con pour aller à Paris, voilà. Quand même.
Bon. Non, franchement, je ne voudrais pas habiter à Paris. Hein.
Voilà. Et c'est l'objet de l'édito.
Oui. Hein.
Enfumage, l'édito de Pierre Orluc, qui consacre effectivement toute sa page à cette problématique qui nous menace. Hein. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même. Enfin, une bonne ou une mauvaise, ça dépend comment on voit les choses. C'est que dans le journal d'aujourd'hui, on nous annonce... La métropole européenne de Lille abandonne son projet de zone à faible émission. La région n'en comportera aucune.
Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien,
Christophe ? Quand on pense à tout le Bataquès qui nous a été fait il y a 4 ans, 5 ans, c'était avant le Covid, et tout ce qui en a déduit. Alors il y a une enquête publique qui a été faite, il y a eu 376 réponses.
C'est pas beaucoup.
Non. Donc voilà, alors je rappelle que Paris, Rouen et Lyon, Reims vont être les quatre agglos qui vont mettre en place, qui ont mis en place déjà et qui vont serrer un peu plus la vis. Pour l'instant, Lille et la métropole, on passe à côté. Hein. Bon, on verra. Alors, parlons du sommaire de Motomag d'octobre. Donc, j'ai décomposé ça en trois séquences. La première qui revient sur tous les rassemblements qui ont pu avoir lieu et qui sont présentés dans Motomag. Une course particulière de Yamaha, le rassemblement Ducati, et ça c'est un événement, et un rassemblement aux USA aussi, Harley Davidson, Yves, et une Yann.
Ah, mais il ne connaît pas Harley Yves. Hein.
Oui, bah justement.
C'est Storgy, c'est un rassemblement qui existe depuis des années.
Je connais un petit peu.
Ouais. Tout à fait. Donc ensuite, dans la séquence suivante, je vous proposerai donc les différents modèles de motos qui sont présentés à l'essai, un comparatif des petits trails, et puis surtout un dossier sur le side, avec deux nouveautés et surtout la reprise et la poursuite d'activité de DJ Side, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, Philippe et Frédéric, donc les deux journalistes de Motomag, qui sont partis en juillet faire un périple d'une semaine en Islande et qui nous racontent par le menu détail la découverte de ce pays particulier, particulièrement attachant d'ailleurs, avec tout son lot de... d'aventure.
Il y a la bonne bière là-bas en Irlande.
Entre autres.
C'est la morphine.
Voilà.
Pas l'Irlande, c'est l'Islande.
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 Je suis passé devant
le vestige.
C'est la beau pays aussi. Il y a la bonne bière aussi en Islande.
La balade islandaise.
Voilà, très bien. Merci Christophe. Ça, c'est le sommaire.
Merci Jean-Yves. Au moins, il y en a qui suivent.
Et du mag pour d'octobre. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à tous.
Un autre motard engagé. Donc, je te rappelle que tu es le porte-parole de la Fédération française des motards en colère.
FFMC, de la FDM et maintenant de l'ERJ. Mais enfin, je vous en causerai plus tard. Donc, moi, j'ai développé en quatre points. Il s'est passé pas mal de choses cet été. Donc, je reviendrai brièvement dessus. C'est la saison des adhésions à la FFMC. Alors, on parlera aussi un peu du résultat de la manif qui est plus que décevant, mais ça, c'est de votre faute à vous, motards. Ensuite, il y aura le 12 octobre la rencontre des adhérents et nouveaux adhérents. Alors, pour une fois, ça ne se fera pas à Neuf-Berquin, ça va se faire à Villeneuve-d'Ascq, à la Bécane. Et puis, je présenterai l'ERJ, ce que c'est, son but, Et le RJ est une des pétales de la marguerite du mouvement motard, c'est-à-dire que c'est l'éducation routière pour la jeunesse.
Très bien, merci.
Je développerai tout ça.
Merci Jean-Yves. Yves, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on va terminer cette émission avec un interview d'Alexandre Rouvois.
Exactement, oui.
Dis-nous qui est Alexandre.
Alors Alexandre Rouvois, on l'avait invité la fois dernière, l'année passée, la saison dernière à l'émission. Et c'est un motard engagé, c'est un passionné de moto qui a un bar sur l'île et puis qui, étant sur Tourcoing, a commencé avec le LVM à organiser le festival de la... le festival...
De l'élégance.
De l'élégance moto, c'est pour un peu changer un petit peu des rallyes et on parlera de ça aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose qui a lieu aujourd'hui, donc
midi 15 au téléphone, on va l'avoir vers midi 15 au téléphone.
Exactement.
Voilà, très bien. Vous écoutez Campus Lille sur le 106.6 ou www.campuslille.com. À la technique, eh bien on salue notre pilote d'émission, hein, Laurent. On se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. Et allez, à tout de suite. Nobody seem to know me, everybody pass me by. I wonder if my good gal, I wonder if she knows I'm here. I wonder if she knows I'm here. Does she know I'm here? Well, I wonder if my good gal, I wonder if she knows. Lord, I wonder if she said a prayer. I got two cards looking, Lord, they seem to be handmade, handmade, they seem to be handmade. I got two cards looking, Lord, they seem to be handmade. Looks like the eight of diamonds, the other looks like it's an ace of spades. Well, I'm standing on a crossroads, wondering where everybody went, where everybody go, tell me where everybody went. Lord, I'm standing on a crossroads, I'm wondering where everybody went. Mister, won't you pick me up? I swear I ain't gonna kill nobody's kids. I'm standing on a highway, trying to hold up in me, trying to hold up in me, trying to hold up in the brave. Well, I'm standing on a crossroads, trying to hold up in me, trying to hold up in me brave. I got one road going up high, left the other road going down to my grave. Well, I'm standing on the crossroads trying to flag a ride. Well, I'm standing on a highway trying to bum a ride, trying to bum a ride. I'm standing on a highway watching my life roll by. Bon, Christophe, on parle des rassemblements qui ont eu lieu durant ces quelques mois de vacances.
Voilà, des festivals, des rassemblements de marques. Et donc, le premier cliché, bah, c'est justement un arrêt sur image où on voit finalement un circuit de vitesse sur lequel roule une moto GP d'époque. Un gros trail, en l'occurrence une Ténéré, avec à leur guidon deux Américains, Kenny Roberts en personne, et puis Randy Mamola.
Oui, Mimolette.
Oui. Mimolette. Tout à fait. Et donc, bah, ces élites de la course moto étaient réunies en fait, pour le Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre, pour une bonne cause. Et donc, ils ont récolté, pendant les 4 jours du festival, 120 000 euros, donc c'est quand même pas mal, pour venir donc en aide à une organisation humanitaire qui agit en Afrique pour les médecins et les infirmières, pour atteindre les communautés les plus reculées. Donc, on voit également sur la photo deux autres pilotes officiels du team Ténéré Yamaha Rally. Et donc, ils ont fait le show pendant ces 4 jours. Page suivante, c'est un autre rassemblement, un rassemblement de marques. C'est un peu la Mecque de Ducati, le World Ducati Week 2024. Donc un événement qui existe depuis 1998, tous les 2 ans, et qui cette année a réuni 94 000 visiteurs à la fin du mois de juillet. On s'est pressé donc autour du circuit de Misano, sur le circuit de Misano d'ailleurs, avec la parade, le tour du circuit. Et la particularité de ce rassemblement, c'est que tous les pilotes et tout le staff Ducati assistent à la manifestation et se mettent au service de leurs clients pour leur servir la roustida, un énorme barbecue. Nous, on fait le moule frites.
Les pilotes de Grand Prix, c'est ça?
Les pilotes officiels de Ducati. Ouais. D'ailleurs, il y a une photo, un champion maison s'amuse. Donc, ils ont fait le show. Voilà. Donc, par contre, je parlais du staff. Eh bien, en tenue de cuistot pour servir donc tous leurs hôtes. 94 000, c'est quand même un événement vraiment particulier. Avec des rassemblements de motos. Alors, il y a quelques chiffres qui sont donnés qui sont assez impressionnants. Alors, il y avait 531, par exemple, Ducati 916, 996 et 998. Il y avait 15 Panigale V4S qui étaient réalisés dans une livrée spéciale. Alors, c'est toujours pareil, on en avait déjà parlé. C'est le genre de moto, c'est vendu avant qu'elle soit faite. Quasiment. Elles sont déjà collectors. Et donc, je parlais du staff. 98 directeurs et managers de l'usine et de ses filiales à travers le monde qui ont cuisiné pendant la Rustida, donc ce barbecue géant sur la plage du lieu où était réuni l'événement.
Et tu crois qu'il faut avoir vraiment une Ducati pour pouvoir participer à cet événement?
Ah, c'est sûr que j'irai pas avec.
Si t'as une Honda.
Ah, une Honda.
Ouais, non, tu peux pas.
J'irai pas avec une Harley.
Faut pas chercher les ennuis.
C'est indiqué, hein.
Voilà. Tout à fait. Et puis un autre événement. Donc là, on part aux États-Unis à Sturgis, le 84e Sturgis Motorcycle Rally. Donc un événement qui s'est déroulé du 2 au 11 août. Alors ça se passe dans le Dakota du Sud. Je vais pas regarder sur une carte où ça se trouvait. Alors là, c'est encore à une autre échelle.
C'est plus 94 000 spectateurs. T'as vu, c'est 470 000.
Hein. 470 000 et 900, un peu plus.
987 véhicules. Donc forcément, pilotes et spectateurs, forcément.
Alors vous imaginez, c'est dans une ville qui compte environ 7 000 habitants. Donc ils vivent moto pendant tout un week-end. Alors Harley bien sûr, mais Indian également, hein, on n'est pas sectaire. Enfin gros, en gros tous les bikers du monde entier affluent, remplissent motels, campings, etc. Des retombées économiques monstrueuses, hein, estimées à 705 millions d'euros. Et bien sûr des animations, des rides dans la campagne mythique des décors de films, hein, photos à l'appui que vous retrouverez. Et donc, il vise pour 2025 un nouveau record de participation, donc pour les 85 ans, en espérant battre celui des 75 ans où ils étaient 739 000 participants. Ouais. Bon, ça nous donne une échelle qu'on imagine. Bon,
et alors là, Jean-Yves, t'as intérêt à avoir une Harley, hein. Là, Sturgis, hein.
C'est pas une raison.
Voilà. Alors, puisqu'il me reste un peu de temps, j'en profite pour parler d'un article juste avant concernant l'histoire de la moto anglaise. Alors, on n'a pas le plaisir d'avoir autour de la table Nico qui nous en aurait parlé, je pense, avec beaucoup de classe et de savoir. Mais on a Hervé Seigne qui est interviewé, donc historien amateur et motard. On a un point commun, c'est qu'on a le même âge. Et donc, il répond aux questions de Guillaume Dayan. justement sur le déclin de la moto dans les années 60-70, l'émergence et donc effectivement l'apparition de Honda. Quand fabriquait Honda en 66, 2 millions de motos fabriquées chaque année, l'industrie britannique n'en fabriquait péniblement que 40 000. Et donc c'est effectivement le déclin de la marque et sa résurrection en quelque sorte en 1983 avec la reprise donc par John Bohr qui en a fait ce qu'on connaît aujourd'hui de la marque Triumph. Donc vous découvrirez là 4 pages qui font bien le tour et je trouve que justement Hervé répond précisément aux questions de Guillaume et donne un petit peu le... Bah, ce qui s'est passé, quoi. Ouais, ces marques...
Il aurait pu parler un peu plus de la coopérative, parce que les ouvriers, après la première faillite, les ouvriers sont montés une coopérative, et là, justement, à mon avis, il aurait pu développer un peu plus.
Oui, bah, c'est-à-dire que là, il développe plutôt l'esprit sur lequel ils ont vécu sur leurs acquis,
ouais.
Sans voir arriver la mutation aussi de la pratique, etc.
C'est que la coopérative a continué sur le même rail, alors que c'était l'occasion formidable d'évoluer.
Voilà. Et donc sa référence à Hervé, c'est la bonne ville de 67, qui reste donc la moto vraiment à ses origines. Et...
La mienne est de 69 et c'est elle la vraie.
Ah bon,
ça la mienne elle est 78, alors moi je veux dire que c'est là.
Elle est fausse, elle a le sélecteur du mauvais côté.
Ça sera l'objet d'un débat.
Très bien.
On pourra faire ça.
On passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Oh, God, it's better!
Voilà, Christophe, avant de parler de trail, on va saluer notre ami Daniel Torel, donc le roi de la custom culture. Bonjour Daniel.
Salut l'ami, salut les amis. Bah oui, vous êtes tous bronzés.
Oui, ça change. Qu'on commence un petit peu à pâlir quand même. Parce que c'est quand même pas,
c'est pas ici qu'on bronze. On est quand même le 6 octobre.
Hein. Enfin bon, on est tous là en mode beau gosse.
C'est sympa de nous dire ça, tiens. On sait qu'on a bonne mine.
C'est vrai que j'ai pas vu le crayon.
Voilà. Bon, bah, allez, on continue ce sommaire du Motomag. Hein. Donc on parle un petit comparo de trail, c'est ça?
Alors effectivement, c'est la page de couverture de Motomag. Hein, donc les petits poussés passent partout. Donc la Royal Enfield que j'ai eu le plaisir d'essayer. Donc l'Himalayan, hein, on parle de l'évolution de l'Himalayan, puisque c'était une 410, elle est passée à 450, elle a été revue, corrigée, et effectivement, elle devrait avoir son succès.
Et tu l'as essayé, et donc, c'est ça?
Oui.
Alors?
Oui. Ah bah, j'ai trouvé ça très sympathique, mais j'en ai pas essayé d'autres, donc je peux pas comparer. Donc justement,
non mais t'as pas fait chèque, quoi.
C'est l'objet du comparatif.
Non mais il serait temps de faire un chèque pour changer de moto.
Oh, t'inquiète. Pousse pas la roue.
Faut changer.
Donc, au fait, justement.
Elle était pas trop petite chez toi.
Non, ça allait. Oui. Mais de toute façon, effectivement, ça sera une selle adaptée, clairement.
Toi, donc, généralement, sur les trails, on rabaisse la selle. Toi, c'est l'inverse.
Oui, tout à fait.
Tu vas remonter la selle.
Et puis, je pense que je mettrai une roue de 21 pouces devant.
Ah, tu mets 21 pouces.
Une rehausse de guidon.
Ah oui,
voilà. Ce que possède la CF Moto 450 également, mais là c'est un bicylindre, donc il fait l'objet du comparatif. Et la Scrambler 400X que je suis allé voir, et là clairement j'ai l'impression d'avoir un petit vélo entre les jambes, quoi. Donc c'est pas pour moi.
Il faut préciser aux auditeurs que tu fais quand même 2 mètres.
Et un peu plus, oui.
0,5 4.
On va
hein, donc t'es grand, hein.
Donc,
il est petit.
Tout à fait.
Donc pour trouver une moto à ta taille, c'est pas facile.
Absolument. Alors, vous avez un autre comparatif concernant deux motos dans la rubrique néo-rétro. Hein, donc, une Yamaha XSR 900 GP, que je trouve d'une esthétique particulière, mais pour lequel, là, c'est clair, je ne m'assierai même pas dessus, parce que j'y arriverai pas. Et la Kawasaki 900 RS, hein, qu'on connaît bien.
C'est la Z900 des années 90.
Tout à fait, puisque parmi nos adhérents, je pense qu'il y a un propriétaire qui l'apprécie au quotidien.
Alors elle est belle. Hein.
Ah, elle est magnifique. C'est ce qui fait dire même au journaliste avec lequel il avait fait l'essai qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui avait demandé quand est-ce qu'il l'avait restauré.
Ah oui. Tellement. Ah oui, non, mais, non, mais moi je trouve que c'est une belle moto.
C'est une belle réussite. Alors, il y a une tendance, effectivement, dans les présentations des motos, c'est cette tendance au SUV, à l'augmentation, pour donner un caractère un peu plus automobile et SUV aux motos. Et c'est le cas, par exemple, de la CB500X, qui devient maintenant la NX500, et qui se retrouve un petit peu surélevée, tout comme les Can-Am. Quand on parle Can-Am, on parle trois roues.
Ouais.
Ils ont augmenté les diamètres des roues, pour gagner un peu en garde-sol et donc avoir des hauteurs de véhicules un petit peu plus élevées, un petit peu à la mode automobile.
Bientôt, ils ne pourront plus passer sous les portiques d'entrée des supermarchés.
Aïe, s'ils continuent
comme ça.
Oui, c'est 2 mètres. Hein.
Alors, Can-Am, Can-Am qu'on connaît pour ses 3 roues, décline maintenant des 2 roues électriques. Et donc, ils sortent deux modèles, Pulse et Origin. Voilà, deux puissances, deux versions. Vous découvrirez donc dans les pages les nouveautés de Can-Am, donc produit canadien qui fait partie du groupe Bombardier. Enfin, je voudrais évoquer le dossier consacré au Side, avec notamment la présentation de la reprise de l'entreprise DJ Side, donc de Jean-Louis Damois, qui a cédé donc à son entreprise, à deux jeunes de la même région qui reprennent donc la production des sides particulièrement élitistes, mais de très bonne facture. Alors, l'histoire, elle est assez cocasse, parce que en l'occurrence... Alors, je retrouve mes notes. Je vais y arriver. Il voulait devenir pilote d'usine. le créateur de l'entreprise. Et comme il a vu que...
Il faisait la cuisine en moto, en Grand Prix, en championnat du monde.
Et comme il a vu qu'il n'y arriverait pas, il a créé sa propre usine.
Ah oui.
Voilà.
Ah bah donc maintenant, il est pilote d'usine.
Et il est pilote d'usine de ses propres produits.
Bah c'est ce que j'ai fait avec mon proto.
Voilà.
Je suis pilote d'usine.
Et il y a réussi pas mal, puisque Jean-Louis, finalement, il est devenu champion de France des rallyes, plusieurs fois d'ailleurs. Et il s'est fait un nom. Et bah, bien sûr, son entreprise a décollé avec les productions, donc, en l'occurrence, qu'il a réalisées. Donc vous avez une présentation de différents modèles, avec qui il a concouru. Et puis vous avez une présentation, surtout, de la passation de témoins avec les deux jeunes qui reprennent et qui ont décliné en fait, des produits plus abordables, hein, à partir d'une Hornet, en l'occurrence Honda, pour arriver à proposer des produits de bonne facture, mais accessibles. Et puis, puisqu'on est à parler de side accessible, et ben dans les pages qui suivent, vous avez présentation de deux modèles de side. Alors, Jean-Yves est intéressé, puisqu'on en parlait tout à l'heure aux antennes. Alors, je faisais remarquer que pour le prix des Ourals, aujourd'hui, qui est devenu quand
délirant,
même astronomique,
complètement délirant.
Vous avez la possibilité de vous payer et une mâche et une Shangyang.
Voilà. Hein,
donc, la mâche, on connaissait la 450 donc, de 28 chevaux. Là, on passe sur une gamme de moteurs un peu plus puissants, donc à 500. Et on arrive à quelque chose de très équilibré pour la somme de 12 699 euros.
Oui, la somme est intéressante, mais la puissance... pour avoir fait mon premier side, c'était une 500 en mono BSA, ça manque de chevaux. On s'amuse beaucoup moins avec 50 chevaux qu'avec 100. Avec 100, voilà. On peut s'amuser.
Alors,
à déraper,
si vous voulez, etc. Si vous voulez un peu plus puissant, vous passerez avec le Shangyang, donc, qu'on connaissait donc, en modèle Pékin Express, qui devient
donc,
maintenant...
Ça ne doit pas être délirant non plus au niveau de la puissance.
Sibérien.
Hein.
Alors, on est sur un 750. En l'occurrence,
un faux 750,
un 74 chevaux.
Parce qu'en fait, la cylindrée réelle, c'est moins de 700, c'est 690 et quelques trucs comme ça.
693,
donc c'est vraiment dès le début, c'est de la poudre aux yeux. Ça veut se faire passer pour une 750 et c'est en dessous.
Alors, ce que je disais là, il passe de 18 pouces en 19 pouces.
Et oui, Daniel. Et oui.
Pour gagner un peu en garde-sol. Et, oui. Et surtout, c'est la fourche qui est modifiée, donc.
Une fourche à balancier
qui rend le pilotage moins énergique.
Hein ça, c'est pas énergique, c'est le rhumatisant des épaules, c'est pas la peine d'essayer.
Voilà. Hein, donc, à découvrir ce modèle. On aura l'occasion d'aller l'essayer, puisqu'on a un concessionnaire sur la métropole lilloise qui nous l'avait proposé l'année dernière lors du lancement du calendar.
Alors, je sais que vous allez aller à deux. Hein. Oui. Toi et Jean-Yves. Oui. Et qui va piloter ? Et qui monte dans le side ?
Moi, j'ai une expérience en side qui est quand même non négligeable.
Il faut que j'arrive à me glisser dans le panier.
Toi, pour l'un, c'est ça, il faut que tu rentres dedans.
Deuxièmement, il faut que Jean-Yves...
Oui, tu veux mettre les pieds au-dessus. Oui,
il faut que Jean-Yves accepte que je pilote la moto.
Ah bah oui, il n'y a pas de problème.
Mais sans lui.
Non, je me mettrai dans le nez du side avec un casque et des genouillères.
Parce que bon, quand même, on en parlait, Jean-Yves, piloter un side, c'est quand même... Il faut faire attention, il faut avoir un peu d'expérience.
C'est pas une moto.
c'est une évidence.
Mais...
Avec Jean-Yves dans le panier, j'aurai les conseils en tant qu'instructeur à FDM. Mmh. J'aurai toutes les qualités pour pouvoir piloter sans risque.
Pour une fois, tu pourras mettre la main au panier.
Voilà. Daniel, tu en penses quoi du side ? Tu n'as jamais eu ta vie, toi ?
Non, jamais.
T'as jamais piloté un side ? T'as jamais possédé un side ?
Non.
Que des Harley Davidson,
Des Harley, des
Indian, mais
R18.
Moi, j'ai une proposition.
Oui, des BM.
La biche. J'ai une proposition à vous faire. Oui. On va la faire à la mode Nicolas Hulot. Je ferai l'interview et l'enregistrement dans le panier, en conduite avec Jean-Yves.
Je suis dans le panier du side de Chongqing. Alors, c'est
Jean-Yves. Nous prenons 80 km/h.
Voilà. Donc, c'est ça. Tu vas le faire, Nicolas Hulot, avec le masque, le tuba. Et puis, alors, Daniel, ça t'a jamais tenté de rouler en side ?
Non, quand je vois les...
jamais eu envie.
En gros, si tu veux, ça les emmerde d'une bagnole.
Attends, au niveau encombrement, d'accord.
Voilà. Non, les inconvénients
quand
t'es dans
un embouteillage, effectivement.
Puis,
ça les emmerde d'une Porsche ou d'une Lamborghini.
Oui, non, mais.
Parce que ça accélère pareil.
Mais je roule plus avec une Porsche. depuis que vous me payez plus, je peux plus. Non, ça m'attire absolument pas.
Moi j'ai vu de beaux attelages avec des Harley Davidson. Ouais, hein,
non,
j'ai vu,
j'ai vu des
belles choses quand même.
On en voit. Il y a de très jolies choses.
Mais bon.
Plus souvent des trikes que des Harley attelés.
On en a vu quelques-unes quand même.
Oui, oui, mais bon.
Voilà, à l'Alpe d'Huez, il y en avait pas mal.
Pour terminer, Christophe.
Donc on essaiera. Alors, est-ce que. Non, j'en parlerai à la séquence suivante.
T'as raison.
Le consommotard, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans le sommaire, mais j'ai repéré des trucs
c'est ce qu'on
qui
fait.
Peuvent être utiles.
On se passe un petit morceau de musique.
Ouais, on va souffler.
Et après, on parle consommotard, c'est ça?
Non, après on parle de balade islandaise.
De balade.
Ah oui.
En Islande, et pas en Irlande. Hein.
Oui, attention. C'est pas pareil. Hein.
Voilà, allez.
C'est pas le même budget non plus.
Oui. À tout de suite. Christophe, on se barre en Islande,
en Islande
et pas en Irlande.
Absolument.
C'est pas le même tarif.
J'en profite pour dire que Philippe Guillaume, journaliste qui rédige les textes, et Fred Brozniak, également journaliste, qui lui fait les prises de vue, nous aurons le plaisir de les accueillir le mois prochain pour un enchaînement de plusieurs apéros avec Moto Magazine. Donc ça sera un événement, on les aura à la radio, on les reverra d'ailleurs avec le Team Rabbit, puisqu'on aura l'occasion bientôt de parler du Team Rabbit. Et donc ça sera un événement important dans la vie de Kikinku. Alors au mois de juillet, Philippe et Fred se sont rendus en Islande. Alors c'est pas une mince affaire hein, d'aller en Islande.
Non, c'est le bordel.
Alors,
si tu veux y aller en bateau, il faut monter au Danemark.
Il faut monter au Danemark. Ouais, il faut prendre.
Il y a un seul bateau. C'est une fois par semaine, je crois.
Voilà. Et il faut avoir le budget qui va avec. Hein.
Ah, il faut des sous.
2300 euros.
Oui, tout compris.
La cabine, le transport des motos et des passagers.
Ah bon, rien que pour le bateau.
Quand tu as payé ce prix-là. T'as pas encore payé en Islande.
Ah, t'as pas payé ton hébergement là-bas en Islande.
Tout à fait. Alors, la narration de Philippe, elle est intéressante, puisque bon, il nous refait un peu l'histoire du pays, qui est quand même un pays assez jeune. Des premiers arrivés, les premiers colons qui viennent de Norvège et de Suède, ça se passe en 1850. Et quand ils nous font la description de l'île, on se dit qu'ils avaient quand même, ils étaient sacrément couillus pour arriver là et puis s'installer pour se nourrir, pêcher, vivre quand même sous des climats peu hospitaliers.
Hein, scandinaves.
Tout à fait. L'un d'entre vous est-il déjà allé là-bas?
Non,
Jean-Yves, lui, c'était un grand voyageur.
À l'aéroport.
Daniel.
L'aéroport, juste pour le transit, c'est tout.
Bon, et il faut pas tomber quand il y a un volcan en éruption, hein, parce que ça la fout mal. Alors, effectivement.
Il faut avoir un filtre à air de rechange.
Oui. Alors, c'est le positionnement hein, de l'Islande, une île donc traversée par la faille entre les plaques tectoniques américaines et eurasiatiques, d'où une activité volcanique intense. Et donc, l'air, l'eau, la terre, la
géologie,
glace,
il est bon en géologie.
Et le feu, tous les éléments réunis. Bon.
Bah oui, la terre, la glace, le feu, hein. Voilà. L'air, l'eau, c'est un pays assez étonnant.
L'eau chaude gratuite.
Et l'eau chaude gratuite, oui.
Au moins, t'es propre.
Philippe et Fred sont des gens raisonnables. Hein. Ils ont suivi la route du littoral, ils ont fait le tour de l'île, parce que s'aventurer à l'intérieur de l'île, c'était pas sûr qu'ils reviennent dans les temps prévus, compte tenu des 7 jours qu'ils avaient à passer sur l'île. Alors effectivement, si vous voulez traverser l'île, il vaut mieux y aller avec un trail, avec un service d'assistance.
Un site car cross.
Voilà. Et trouver des solutions, sachant qu'il peut neiger en plein été.
J'ai noté trois mots, là. Il y a 800 000 bêtes. Alors, je pense qu'il y a des moutons.
Oui.
Hein. Les moutons.
Alors, il y a des moutons, il y a des rennes.
Contre à peine 50 000.
500 000 humains.
Oui. Et là, il dit, au moins, il y a des piles pour tout le monde.
Absolument. Et donc, il y a des rennes.
Il manque pas de.
Il y a des oies sauvages. Oies sauvages aussi. Oui. Et puis, bon, il y a des poissons, des petits, des gros.
Et puis des baleines.
Et voilà.
C'est ce qui a fait la fortune de l'Islande.
Et des parapluies.
Les pêcheries.
Oui. Et alors.
Non, mais c'est rare qu'il pleut, hein,
Les baleines.
Pour un amateur de mécanique, c'est quand même aussi intéressant le petit éclairage sur la puissance du bateau. Je sais pas si vous aviez vu, mais 4 fois 6 cylindres Caterpillar de 538 litres de cylindré. Alors, je sais pas si vous imaginez la taille des moulins.
Non, les brise-glaces ou autres, c'est ce.
30 000 chevaux pour 30 km heure.
Ce qui est très rapide pour un bateau.
En vitesse de croisière, 800 voitures, 1400 personnes et la bagatelle de 97 millions d'euros. Bon, c'est des chiffres effectivement qui. On réalise même pas ce que ça représente.
Alors là-bas en Islande, il n'y a qu'une seule route, hein, je crois. On fait le tour de l'île.
Voilà. Mais les paysages sont tellement variés, différents, les fjords, les cascades, les bains de sources chaudes.
Il faut aimer la nature, hein ?
Oui. Ah oui.
Non, mais si ça te fait chier la nature, tu vas pas en Islande.
Surtout,
quoi.
Faut avoir.
Tu vas en Irlande.
Tu vas en Irlande.
Il faut avoir le moral parce que, effectivement, en été, tu as un jour quasiment perpétuel, mais en hiver, tu as une nuit perpétuelle aussi.
Oui. Et alors, je vais vous raconter une anecdote qu'il m'a rappelée en évoquant les gamins qui jouaient donc au basket par 6 degrés en t-shirt. Moi, je m'étais rendu en Suède après avoir roulé toute une nuit. Et j'arrive effectivement en Suède. Je vois les jeunes qui vont à l'école en débardeur par 8 degrés. Nous, on sortait de la voiture, on avait nos anoraks, nos doudounes. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, voilà. Alors, rappelez.
C'est pas précisé à quel moment il est préférable d'aller là-bas en Islande.
Jamais. Jamais.
Ici, peut-être que juin.
L'été, évidemment.
Juin, ça doit être une bonne époque. Quand
les
même.
Jours les voilà. plus longs.
Les jours les plus longs. Voilà.
Donc, ils ont fait ce périple début juillet. Et donc, ils l'ont fait en Vistrom Suzuki 1050 SE. Et donc, dont il nous fait d'ailleurs la narration de la moto qui répondait parfaitement en tant que voyageuse pour ce genre de profil routier. On s'entend bien.
Oui, donc, il faut un trail pour aller là-bas ou non une moto d'enduro,
le Vestrom. De toute façon, maintenant,
le Vestrom,
quand
il peut passer là-bas. Hein
quand tu te balades en Grèce ou ailleurs, tu vois que des trails. Hein,
ah, donc, oui, de toute façon, oui. Mais j'ai un copain qui l'a fait en GSBM. Il a essayé de rentrer les pistes et puis il a dit non, c'est pas possible. Il était avec sa femme. La moto chargée, il s'est rabattu sur la route côtière.
Oui, oui. Bah,
pas possible, les pistes intérieures.
L'avertissement, effectivement, est évoqué. Et il parle d'un autre groupe qui a pris ces routes de type F, hein, difficile, réservé aux 4x4 et aux motos, et pas ouvertes toute l'année. Donc ça dénote effectivement
puis,
ce que tu disais, la miche.
Ils mettent une photo d'un tout-terrain bagnole avec une garde
un
au sol de 50 cm au moins.
Alors, c'est un Mercedes genre un Imog, effectivement.
Et alors aussi,
avec une moto derrière, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et la route 1 dont on parle, elle fait 1332 km. Donc en une semaine, faut pas...
Il faut se cracher dans les poignes. Il ne
faut pas perdre son temps.
Mais l'antivol à la roue, puis commencer à avoir des problèmes.
Absolument.
Aller chercher le dépanneur.
Alors, puisque tu parles d'antivol, justement, ça tombe bien. Alors, une excellente transition.
Je voulais revenir un petit peu.
Ah, tu veux revenir sur
l'Islande, sur
quoi encore
le budget, parce que 2500 balles pour prendre le bateau déjà et pour aller là-bas. Et on a déjà fait une émission avec des motards qui se sont rendus en Islande. Et apparemment, c'est pour la bouffe, c'est pas pour rien. Et les logements aussi. Donc c'est un budget à combien?
C'est Eric Lobo, si je ne m'abuse.
Non, c'est pas Lobo.
C'est pas Lobo.
Non.
Il n'y a pas le budget total, hein, mais effectivement, dans ce genre de...
Il faut compter 200, entre 4 et 5 000 balles.
2,10 euros le litre, la panne de bière à 10 euros, le fish and chip à 20 euros.
Ah oui.
Et donc les chambres doivent être à plusieurs centaines d'euros.
C'est ce qui m'a étonné, c'est qu'il parlait de camping.
Ça fait 4 500 balles la semaine.
Ouais, et encore, si tu fais pas d'effort.
Ouais. Oui, parce que si tu bois pas de bière.
Voilà. Ou de l'eau des geysers.
Que de l'eau des geysers, on va dire.
Avec un petit sachet, ça fait du
thé. Un sachet de thé.
Voilà. Bon, voilà. Allez. Bon.
Alors, pour voyager, et je termine là-dessus, sur deux choses concernant Consomotard, dont je parlais dans la séquence précédente. Un comparatif sur les déperlants, donc ça tombe bien, peut-être que pour l'Islande ça peut servir, hein, donc là vous pouvez l'emporter avec vous. Et puis un autre, tu parlais de la 1250 GS, le problème de ces motos, c'est leur dalle TFT
qui s'évapore.
T'as pas d'antivol pour ce genre de si. Eh bien si, maintenant il y a un antivol parce que tu te fais voler ton tableau de bord.
Ah ouais, ton tableau de bord,
1500 euros, je pense, la dalle. Oui. Donc il y a Wunderlich.
Ça vaut que dalle.
Bah si.
Ça vaut que dalle.
Quoi?
Par rapport au prix de la moto, oui. Ah bah bien sûr. Mais t'es bien embêté quand tu l'as plus.
À mon avis, tu dois pas pouvoir démarrer le moteur.
Bon, enfin, tout ça pour dire que on a trouvé des solutions anti-vol pour
éviter de se faire piquer son compteur.
Voilà. Tout au moins.
Ça, c'est vraiment incroyable. Hein.
Oui.
Dans quel monde on vit,
une drôle d'époque.
Une drôle d'époque, vraiment.
Rouler en Harley, vous aurez juste un petit truc.
Bah oui, un petit truc. C'est...
Je rends l'antenne à vous, les studios.
Tu rends l'antenne. Bon, allez. Bon, ben, c'est bon. Un aperçu du sommaire, il y a encore plein de choses à voir aussi, à lire dans le mag de Octobre.
Bien sûr.
Hein, voilà. Et après, c'est terminé donc. Après, on va passer avec Jean-Yves pour les nouvelles de la Fédération française des motards en colère. On passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. We'll be right back.
can of my first beer. Hope I don't get lost out here, 'cause I might not make it back. Walking on the fence line, sunburned up to my neck. $5 an hour, boy, never said the bills pay.
Retour du magazine de la moto désormais tous les dimanches sur Campus 106,6 ou www.campuslille.com. Jean-Yves.
Oui, bonjour.
Jean-Yves, porte-parole
bonjour.
De la Fédé.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que on a un président Micron, il s'appelle, je crois.
Aïe, 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 je sens que ça va
il
dégénérer.
Il s'est amusé à dissoudre l'Assemblée, mais...
Et pourquoi,
dans
pourquoi
toute la...
ah, bon, ça servit à quoi, cette histoire?
Parce que pour dissoudre, c'est pas cher.
Non, c'est pas cher pour dissoudre, à ce prix-là...
Parce qu'il a cru qu'il a regardé ses chevilles, il a dit, ah ben, elles sont bien à la bonne dimension, donc je peux faire ce que je veux, parce que tout le monde me suivra. Il ne s'était pas rendu compte que personne ne le suivait, donc il y a foutu le pays dans la merde. Mais par contre, pour les motards du Nord, il y a une conséquence sympathique, c'est que comme il n'y a plus personne aux commandes, eh ben, la prolongation de l'expérimentation interfile continue jusqu'en décembre 2024. Que pour, le...
oui, mais Jean-Yves,
pour, les,
Jean-Yves.
Pour toutes les régions qui,
non, mais attends.
Qui ont une dérogation.
Toi qui es une élite.
Ah bon, en Île-de-France, on s'en fout, c'est les Parisiens.
Non, mais attends,
c'est pas grave. C'est... Ça.
Nous,
bon, ça, c'est Jean-Yves qui dit ça. Hein.
L'interview, c'est pas 50 km de ski. À Paris, comment ça va se passer? Donc, toutes les motos vont faire des bras d'honneur aux voignoles?
Faire de l'interview à Paris,
Moi, je vais vous dire quelque chose.
Non, mais
sur le périph', c'est limité à 50.
Oui. Donc maintenant, c'est 50.
Et donc, le
différentiel, c'est 50. Les motos, oui.
Génial.
Mais alors, moi, j'ai roulé aussi à Paris.
Bon, là, on s'écarte de mon sujet.
Oui, d'accord.
Non, mais
comme on a 4 minutes d'avance, on pouvait se permettre.
Pour une fois qu'on parle de moto.
Bah ouais, on pouvait se permettre.
Il va demander un chronomètre du temps de parole.
On pouvait se permettre, Jean-Yves. Et puis, il faut avouer quand même, à Paris, ils sont les motards. Enfin, alors c'est aussi des scooters.
Surtout des scooters.
Moi, je trouve qu'ils sont barges quand même.
Ils te passent entre deux fils
de bagnole et ils changent de fil aussi. Hein. Quand il y a un espace entre deux voitures, ils changent de fil pour revenir après sur la première file, la plus à gauche. Non, t'as pas le micro, Yves. Tu diras ça tout à l'heure.
Bon, enfin bref. Donc, on va passer là-dessus. On ouvre là en automne et c'est la saison des adhésions. Alors, on a eu l'occasion de voir lors de la dernière manif. Alors là, je vais pas mettre de gants. Vous, les motards du Nord, vous êtes des cons. Parce que, franchement, si vous défendez pas votre beefsteak, vous finirez par une interdiction de la moto. On reviendra au joyeux temps de Pandro et Pasqua, qui veulent interdire la moto et la réserver uniquement aux professionnels.
Alors, tu dis
si
ça,
vous défendez pas votre beefsteak, vous allez crever et ça sera bien fait pour votre gueule.
C'est pour le contrôle technique, hein, en fait.
Pour le contrôle technique,
parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, il n'y a pas eu beaucoup de manifestants, en fait.
Cette manif, d'après les flics, on était 320.
Alors, mais quand même, il fallait expliquer pourquoi refaire encore une manif
Il y a eu un recours au Conseil d'État contre ce contrôle technique tel qu'il est fabriqué. Et puis, d'autre part, on commence à avoir des retours sur les contrôles techniques qui sont passés. Moi, j'ai assisté à deux contrôles techniques et j'ai parlé à la manif à un CRS qui a passé sa Harley de 2017 au contrôle technique. Les trucs administratifs, ça passait, mais évidemment, le contrôle anti-pollution, ça passait pas. Et donc, le contrôleur, pour avoir un chiffre quand même dans son compte-rendu informatique, il a foutu la sonde dans le pot d'échappement d'une bagnole qui était à côté.
Alors ça, je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Hein.
Moi, c'est le flic qui me l'a dit, lui-même, donc le CRS. Donc, bon, alors, moralité, abandonner la lutte alors qu'on a encore un recours au devant le Conseil d'État, je trouve que c'est aussi une connerie. Donc, je vous, motard du Nord, je vous traite de con parce que c'est très mérité.
Bon, voilà. Alors, donc ça, Jean-Yves, la CD, hein. Donc,
c'est mon opinion.
Alors,
on
en parlait hors micro, mais une fois que le contrôle technique a été mis en vigueur, au bout d'une semaine, il y avait déjà 40 000 motards qui s'étaient précipités pour faire.
Franchement,
il faut arrêter de déconner quand même.
À ce sujet-là, en bagnole, le pourcentage de contre-visite, c'est de l'ordre de 20 à 25%, alors qu'en moto, pour l'instant, pour ceux qui ont passé, c'est de l'ordre de 8%. Alors, encore une fois, quelle est la cause de contre-visite ? C'est les pneus. Il y a des cons qui se présentent au contrôle technique avec des pneus lisses. Il faut vraiment être taré, c'est pas possible.
C'est peut-être des pilotes de piste.
Oui, c'est des pneus. Changez vos pneus quand même, c'est un minimum quand même.
Bref. Ouais. On va pas s'énerver plus là-dessus, mais franchement, il y a de quoi.
Ce serait pas bon pour ta tension et ton rhumatisme.
Mon cardiologue m'en gueulerait. Donc, il y a aussi un événement qui va arriver là le 12 octobre, c'est-à-dire samedi prochain. C'est la réunion des adhérents et des nouveaux adhérents FFMC. Et pour une fois, ça ne sera pas à Neuf-Berquin, parce que c'est vrai que Neuf-Berquin, on jouit de facilités de la part de la municipalité quand même sympathique.
Mais c'est loin.
Et donc là, c'est à Villeneuve-d'Ascq, donc c'est quand même à peu près centré sur le département du Nord. Et c'est à la Bécane, donc à la Cousinerie.
Jean-Yves, tu sais, j'ai entendu dire que y a des motards qui regrettent de ne pas avoir été à la manif. Et donc, ils vont venir à cette réunion et ils vont adhérer. Ils vont adhérer justement pour avoir pour faire un poids supplémentaire.
C'est quand
c'est le 12 octobre, 12 octobre à voilà. La bécane.
La veille d'Octobre Rose.
Voilà,
voilà exactement. Donc, bon,
Le 13 qu'on organise, nous.
Jean-Yves.
Oui, donc je continue.
Lis bien ton papier.
Je vous avais parlé de...
Moi, ouais, je vais t'acheter des supports au papier hein, aussi, parce que là, c'est... Jean-Yves.
Bon, donc, au cours de cette réunion, on va discuter de, effectivement, que veulent les adhérents. Soit on continue, soit on entérine le fait qu'on s'est fait baiser. Mais enfin, il faut reconnaître quand même que depuis 2014, on a réussi à faire échapper au contrôle technique. Alors maintenant, un combat qui est net et autre, ce qui est prégnant même... C'est en fait les motards en grande partie se pètent la gueule à cause de l'infrastructure, à cause des nids de poules, à cause de l'état des routes, à cause de la signalisation, enfin bref. Et donc là, on a un moyen d'être actif et donc on va réfléchir à un site internet pour pouvoir transmettre aux autorités qui de droit, donc aux responsables des infrastructures, de l'ABEL et autres, tous les points noirs qui nous dérangent. Que dire encore ? Oui, je vous avais promis de vous parler de l'ERJ. Alors là, l'ERJ, c'est un...
C'est un compteur électrique, ça, l'ERJ, non ?
Non, c'est pas Linky, c'est... Donc, l'ERJ, c'est quoi ? C'est l'éducation routière de la jeunesse. Parce que, on pense à l'avenir. On sait qu'on est un vieux carteron, pas de vieux généraux, mais de vieux motards. Et il y a quand même une nouvelle jeunesse qui arrive. Et l'éducation, ça se fait dès la plus tendre enfance, et donc au bahut, au collège et au lycée. Et donc l'ERJ, c'est des motards qui arrivent en moto et qui présentent l'esprit motard tel qu'il existait, qui existe de moins en moins, devant les minots, c'est-à-dire le respect du partage de la route. Le respect de certaines valeurs de solidarité, parce qu'on vit dans une société où la solidarité, c'est tout pour les riches et rien pour les pauvres. Donc ça change pas. Et donc, l'ERJ est une association reconnue d'utilité publique et qui a des contrats avec agréés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, si vous sentez une fibre pédagogique, que vous êtes motard et que vous avez un peu de temps libre, vous pouvez vous inscrire et puis aller faire de l'éducation à la solidarité devant les minots.
Daniel ?
Non.
Si, pourquoi ?
Je me casse.
T'as la retraite.
Non,
maintenant, Daniel.
Moi, je suis toujours prof quand même dans les ESC. Attends.
Non, mais il faut payer, la donner ton temps.
800 euros de l'heure.
Bon, voilà, ouais, Jean-Yves.
Parce que nous, évidemment, on est bénévoles.
Voilà. Voilà.
Et donc, les bénévoles, c'est considéré comme des têtes de
con. Oui, mais attendez. Alors, ça, ce sera notre débat. Le bénévolat, j'en ai soupé. Parce qu'on se paye toutes les merdes, toutes les tâches que les professionnels qui sont rémunérés pour les faire ne veulent plus faire. Je suis plus d'accord.
D'accord.
Voilà.
Décidément, là,
oui, mais le problème, c'est que tu fais plus rien.
Si, mais je le fais bien.
Bon, voilà, on termine. On récapitule les infos de la Fédé. Donc, la réunion pour les adhésions, c'est le 12 octobre.
À la bécane.
À la cousinerie Villeneuve d'Ascq, voilà. Et puis, vous n'êtes pas content parce que par le manque de participation des motards pour la manif contrôle technique.
Effectivement, si tu luttes pas pour ta survie, faut pas compter sur le gentil gouvernement pour t'aider à faire de la moto.
Voilà, donc c'était à retenir les propos de la Fédé donc aujourd'hui.
Non, mais propos personnels.
Les propos personnels, mais voilà. voilà.
Donc, quelque part, t'as fait un coup d'état sur la Fédé alors. Encore, incroyable.
C'est pas vrai. Non, je suis porte-parole de la Fédé, mais je peux aussi exprimer mon
avis. Mais il a un avis.
Hein.
Ouais, mais c'est un avis, on a tous un avis.
Oui, mais quelque part, là, il engage quand même tous les connards de motards du Nord.
Ouais, mais écoute.
Ils sont tous à la FFMC.
Qu'on a plus eu le temps de trop parler. Hein. Il faut être raisonnable au niveau du temps. Hein. Allez, on passe un morceau de musique et puis l'info de la Cussom Culture avec toi, Daniel.
Enfin, déjà.
Allez, à tout de suite.
not supposed to be scared of anything, but I don't know where I am. I wish that I could move, but I'm exhausted and nobody understands
how I feel.
I'm trying hard to breathe now, but there's no air in my lungs. There's no one here to talk to, and the pain inside is making me numb. I try to hold this under control. That can't help me, 'cause no one knows. Now I'm going through changes, changes. God, I feel so frustrated lately.
L'info de la Custom Culture avec Daniel Tourelle. Daniel, qu'est-ce que c'est ce chuchotement du custom?
Alors,
ça veut dire quoi, ça?
Ben, ça veut dire des chuchotements. C'est des choses qu'on dit discrètement d'une oreille à une personne à la fois. Et au fond, tout le monde est au courant. Oui, on a vu émerger ici et là des concepts qui roulent. Victory. Alors, vous allez me dire, mais... C'est le retour vers le futur.
C'est en arrière.
je sais rien.
Vers le passé.
Actuellement aux États-Unis, donc il y a 3 ou 4 prototypes qui tournent, complètement finalisés, qui sont quelque part à destination des gens qui veulent plus être sur Harley, pas sur Indian, et qui veulent du custom pseudo sportif, un peu au look futuriste. Je dirais que globalement, un mixte entre les Javel de Ducat et les Roquettes de chez Triomphe, à peu près le même esprit.
Et avec... à 100 000 euros aussi.
Ça, les prix, ils n'en parlent pas pour le moment. Mais quand on aime, on compte pas. surtout dans la custom culture, sinon on fait du vélo. Hein, non, mais honnêtement, au niveau des prix, on ne sait rien. Mais je pense que le groupe, qui est avant tout, faut quand même pas oublier, qui sont pas des motards, qui sont avant tout des financiers, et qui se disent, les customs tels qu'on les connaît, c'est une population vieillissante. Les prix des motos tels qu'on les connaît, avec les franges et le truc, les machins, bah, c'est un marché qui est un petit peu en train de se casser la figure. Je rappelle quand même les chiffres 2024 à fin juillet, c'est-à-dire que la saison est close. Harley est à moins 4,5-4,6 et Indian est à moins 13%. Donc, quelque part, ce sont des éléments économiquement impactants pour les actionnaires. Donc, ils ont un gisement. Ils se sont dit, pourquoi pas ressortir de nos tiroirs les bases d'ailleurs qui sont utilisées par Indian sur la Scout, hein, au niveau des moteurs, et les réimplanter dans des géométries un peu plus futuristes, parce que le design est vraiment futuriste. Ça a de la gueule, faut aimer, mais bon, à suivre.
Harley Davidson se dévergonde.
Oui, alors... oui, c'est assez étonnant.
ça te fait rire, Jean-Yves.
C'est bidonnant dans l'Amérique de Trump. C'est vagabond.
Oui, oui. Oui, surtout quand on a passé tout à l'heure un petit truc LGTB, plus. C'est quelque part des évolutions stylistiques qui risquent de choquer quelques-uns dans les jours qui vont venir. Parce que vous verrez les bras oscillants qui ont changé, les réservoirs qui sont plus les peanuts, enfin en forme de cacahuètes et compagnie, ça évolue. Ils ont gardé leur grand classique, la Fat Boy, des choses comme ça, c'est clair. Mais tout doucement, ça évolue. Je dirais que ça se japonise.
Oui, non, mais c'est encore pire parce que en fait les motards américains harléistes en veulent à Harley parce qu'ils ont supporté les LGBT.
Ouais.
Et donc maintenant, Harley fait marche à rétropédalage fantastique en disant que les gays, on n'en a plus rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est conserver notre clientèle de mâle alpha.
On est d'accord, mais faire de la moto Harley, c'est très gay. Hein. Honnêtement, c'est pas triste du tout. Non, mais voilà, je pense.
C'est vrai que ça vibre au bon endroit.
Exactement. Avoir le nombre de types qui se poussent, qui se sont trouvés une virilité en roulant sur du custom, c'est assez étonnant. Mais quand même, pour revenir plus sérieusement, là, vous allez voir les motos sortir là, puisqu'on les a vues à Milan, qui vont arriver dans les concessions. Ça risque d'en choquer quelques-uns.
Bon.
Il y aura les grands classiques. Et puis alors,
on ira voir ça, Daniel. Hein.
Oui.
Oui, ils vont essayer le side Cheng Chang.
Et nous, on va aller voir les arrières.
C'est pas des costumes.
Voilà, nous, on se dépasse pas pour rien.
Ah, d'accord.
Alors, par contre, il y a un truc qui est un petit peu choquant. Vous connaissez mon engagement sur ce qu'on appelle, nous, les PRI, les prix de revient industriels, sur les produits, quels qu'ils soient, et en particulier sur les motos. Bien là, Harley, devant, le tassement de leur vente, on va dire ça comme ça, et puis leurs errements politiques, déjà, les prix étaient costauds. Alors là, sur les CVO, le haut de gamme, et puis ce qu'on appelle les cruisers, les grosses machines, ils ont ajouté combien sur les prix de vente? Là, actuellement, ils sont à 8 170 € de supplément. Donc, sur les véhicules, les road glide, etc., à 42 000 €, on arrive tranquillement sur les 50 000 €.
Ouais, ouais.
Alors, ce qui veut dire que ce sont pour des financiers des variables d'ajustement. Pour retrouver la part de marché perdue, on remonte les prix. Ouais, c'est intelligent.
Pas cher, mon frère. Hein.
On compte pas.
C'est pas des parts de marché.
Hein, quand même. Bon.
Parce que voilà. Pour moi, une part de marché, c'est le pourcentage de motos dans ma propre marque.
Oui,
c'est pas le bénéfice que je fais.
Non, mais c'est le volume financier. Enfin bon, c'est un autre
Daniel,
débat.
Dis-nous, Stormbreaker arrive, clone des HD Harley Davidson.
Voilà. Alors Stormbreaker, c'est assez étonnant. SVM reprend l'importation et le développement de cette machine, donc elle était présente à Milan, ça fait un tabac. Parce que le prix affiché hors importation est de 6 078 € pour un 1200 qui était vendu aux alentours des 13 000-14 000 €. Garantie 5 ans, finition exceptionnelle. Alors les Chinois, c'est des grands malins. Ils ont mis juste un petit autocollant, vous retirez, vous collez Harley et vous avez de nouveau un custom 1200 XL.
Mais ils ont le droit de faire ça?
Non, le particulier fera ça. Pas le
concessionnaire.
Non, ce sera SWM, qui était connu pour les machines de trial quand on en roule avec, et enduro et compagnie.
Très bien. Tu nous avais mis aussi avec moi quoi de neuf. C'était.
Voilà, c'est ça. J'ai concentré pour vous être agréable.
Oh, bah, c'est super. Voilà. Donc on prend rendez-vous pour aller voir cette nouvelle génération de Harley-Davidson. Oui.
Là, on va rigoler.
Là, on va rigoler.
Oui.
D'accord. Bah, on va avoir des choses à dire là.
Nous, on va se marrer parce que on pourra faire un comparo entre les gens qui vont se faire suer dans des machines side et puis nous, on va faire.
Voilà, très bien.
Ah, oui, moto d'homme, quoi.
Mais le side est plus subtil. Que le custom.
Oui,
custom,
mais...
c'est la virilité, c'est l'apparence. Le side, c'est
oui,
quand
mais
même...
Je me demandais bien que Jean-Yves, vous nous aurait dit...
C'est vrai, mais nous, en tant que sailleurs, on fait de la vérité. On l'a fait avec la panne américaine.
Également.
Allez, on va passer un morceau de musique et après, on va retrouver...
Attends,
allez,
juste, allez, un petit truc.
Oui, vas-y.
Ah oui, donc j'ai rencontré sur la route, du côté de Garde, en Italie, deux personnes, apparemment, bon, qui roulaient en sport glide et puis en... une kawa, je ne sais plus laquelle, et qui sont moniteurs de ski, moniteurs de tir, pardon, au stand de tir de Villeneuve-d'Ascq, oui. Des gens exceptionnels que j'ai rencontrés sur la route, donc je les salue.
Ah oui, bonjour alors, messieurs.
Voilà.
Les moniteurs de tir.
Et qui roulent en Harley.
Okay.
Et
donc, voilà. Ils tirent sur des Harley, alors.
Non. Alors, ce Jean-Yves, tu sais,
il est taquin.
Même plus que taquin.
Oui. Tout ça parce qu'il a oublié son petit décrat.
Voilà. Donc, c'est bon, Daniel, hein, voilà. Bon. Bah, on passe à la musique et après on va retrouver Alexandre Auvoy, donc l'organisateur du concours d'élégance moto à Tourcoing, qui a lieu aujourd'hui dimanche. Voilà. Allez, on change de micro. À tout de suite.
Yves, nous avons Alexandre Rouvroy, organisateur du concours d'élégance moto à Tourcoing, au téléphone.
Oui, exactement. Bonjour à tous.
Bonjour Alexandre, comment vas-tu ?
Très bien et toi ?
Très bien, donc là on attend toutes les personnes qui veulent venir au concours d'élégance à Tourcoing. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce que l'on organise pour cela ?
Alors il y a un village avec 35 stands dans l'univers moto, les grandes marques, hein, il y a Triumph, il y a BM, il y a Indian, il y a Royal Enfield, plus des petits artisans et des commerçants. Donc 35 stands, il y a tout un village moto à découvrir. Et il y a trois sessions de concours aujourd'hui, donc midi, 14h et 16h. Donc concours d'élégance, hein, ça laisse libre cours à l'imagination de chacun pour participer. Tout est gratuit. Les participants au concours, les visiteurs, il n'y a rien de payant. Il y a de la restauration sur place, il y a tout pour passer une bonne journée, quoi.
Ouais, exactement. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où est venue l'idée du concours, du festival, et puis à peu près les critères qu'il faut, dont on a parlé un petit peu la dernière fois, parce que ça j'aime bien un peu, pour dire que c'est assez ouvert et que c'est pas uniquement, on faut pas se faire une idée préconçue de ce que peut être le festival d'élégance.
Ouais, tout à fait. Alors l'idée, ça vient des commerçants de Tourcoing. On cherchait quelque chose à faire à Tourcoing de nouveau. Et puis tout le monde savait que j'étais passionné de moto, ça passe pas inaperçu. Donc quelqu'un m'a suggéré l'idée d'organiser un festival d'élégance moto. Et je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée, ça. Enfin, au début, c'est l'univers de la moto, puis on a décidé de faire un concours d'élégance. J'aime bien l'idée du concours d'élégance, parce que ça laisse libre cours à chacun de participer. Parce que l'élégance, c'est un critère assez vague, assez large. Donc ça permet justement de tenter des choses. Hein. L'année passée, il y a eu différents gagnants, très différents, donc tout le monde a sa chance. Et cette année, le président du jury, c'est Camini, que vous connaissez sûrement, qui a fait la chanson Marly Gaumont. Donc il y a un petit critère humoristique en plus cette année, donc tout est permis, quoi.
Oui, bah on a vu l'année dernière sur les photos qu'il y avait beaucoup d'humour, de la famille, de la joie.
Des chiens, des chats.
Est-ce qu'il y a des motos modernes qui ont gagné, mais qu'il y avait aussi de la custom, pas mal d'anglaises, pas mal de motos en fer d'ailleurs. C'est organisé aussi par le LVM aussi. Hein.
Ouais, le Livitage Motorcycle, c'est l'association de motards qui m'aide avec les bénévoles à organiser le festival. Et donc effectivement, il y a un paquet de motos, hein, oui. Et de toutes sortes, donc c'est un beau spectacle.
LVM, c'est rien à voir avec la revue. Hein.
Non.
Ça n'a rien à voir avec la revue, non, tout à fait.
Est-ce que tu as prévu une contre-argumentation, parce que je présume qu'il va y avoir des écolo-bobos qui vont s'insurger contre cette consommation d'essence délirante.
Alors, c'est Jean-Yves qui est sur le plateau radio, là, c'est le porte-parole de la Fédération française des motards en colère. Hein.
Voilà, ouais, alors, il y a sûrement des gens qui sont contre, mais bon, je les écoute pas.
Ils sont tout contre.
Oui, non, mais c'est la municipalité de Tourcoing qui pourrait avoir leurs oreilles.
Ouais, tout à fait. Bon, il y a forcément des gens qui vont critiquer le festival, mais on a la chance d'avoir le soutien de la mairie dans le festival en termes de communication et de matériel. Donc, on va dire que le politique est avec nous. Donc, voilà. Il y aura quand même de l'opposition qui sera contre, évidemment, mais on va dire que ça, c'est le lot de tout événement. Il y a du pour, il y a du contre. Hein.
Très bien, Alexandre, il est midi 20, on peut encore venir jusque ce soir.
Ouais, bien sûr,
c'est 18h. Hein.
Ouais, il y a un concert à 17h, concert de clôture. Et on va sûrement terminer vers 19h, donc ça c'est largement le temps de venir.
Et après, je voulais aussi ajouter, Alexandre, qu'il y a aussi le stand du rare pour Octobre Rose, avec notre ami Claire de Chicane. Et
voilà,
là-dessus.
Il y a une balade qui vient d'avoir lieu ce matin, donc avec des motards qui prenaient en passager des roses, hein, donc des femmes qui sont atteintes du cancer du sein et qui ont fait un petit tour de 45 minutes derrière la moto. Et puis toute la journée sur le stand du rare, il y a une tombola avec des lots qui sont remis en fin de journée. Alors c'est des lots qui ont été chinés dans les magasins de moto, donc il y a des casques, il y a des blousons, il y a des gants, il y a pas mal de choses à gagner. Il y a aussi des meringues qui sont vendues au profit de l'association, les affiches du festival sont vendues au profit de l'association, donc il y a aussi toute une part caritative à l'événement qui n'est pas négligée. Et vous pouvez passer une bonne après-midi à Tourcoing tout en faisant une bonne action.
Bon, tu nous rappelles où ça se situe, où
Donc c'est Parvis Saint-Christophe, donc en plein centre de Tourcoing. C'est inloupable hein, comme événement. Hein. Le centre-ville est bloqué, donc vous pouvez pas.
Ah, c'est bloqué. D'accord.
Et on se gare où alors?
Autour.
Alors, on se gare dans les parkings. Les parkings sont pas chers à Tourcoing.
D'accord. Bon, très bien.
Et les motos, elles se garent où elles peuvent.
Et où elles veulent. Où elles veulent. C'est pas où elles peuvent, c'est où elles veulent.
Voilà.
Ouais, je voulais qu'il y ait quand même une grande part de liberté, hein, parce que tous les motards sont attachés à cette valeur. Donc effectivement, les motards, c'est où ils veulent. Les voitures, par contre, restent à l'extérieur.
Voilà. Très bien. Bah Alexandre, bah écoute, on te remercie, puis bah j'arrive quoi.
Bah nous on va venir te voir là.
Et bah tout à l'heure, hein, rendez-vous au bar.
Tout à l'heure. Hein. Merci Alexandre.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Voilà Christophe, on a terminé cette émission là. Et tu avais encore quelque chose à dire là sur le mag d'octobre.
Oui, alors le mag se termine par le quartier libre. C'est souvent Pierre Orluc ou Philippe Guillaume. Là, pour le coup, c'est Philippe qui s'y est collé. On en parlait tout à l'heure un peu avec Dan concernant le poids du client. Le client a toujours raison, point d'interrogation. Le client est-il roi ? Comment peut-il influencer et faire pression ? Eh bien, on a l'exemple, là, tu l'évoquais, Dan, de Harley Davidson, dont on a jugé la politique de son patron un peu trop marquée libérale et en soutien donc aux communautés LGBT+, TQ+, pardon, et donc un conservateur, bon je ne vais pas vous faire le dessin politique des États-Unis que vous connaissez, et donc un conservateur qui a balancé donc sur les réseaux sociaux cette information et qui a fait rétropédaler Harley Davidson. Et donc, la société avait adhéré, en fait, à des formations pour devenir LGBTQ+, friendly. Et donc, ce n'est pas seulement Harley, mais c'est aussi Jacques Daniels, John Deere.
C'est grave parce qu'ils se font tirer dessus, là.
Alors, non. Ce sont les propriétaires d'Harley qui tirent sur leur bécane.
Qui tirent sur leur bécane.
Pour dénoncer. Non, mais jusqu'où sont-ils frappés?
Ça montre le niveau moyen du QI.
Ils sont frappés, c'est pas possible.
Oui.
Ils sont frappés, hein.
Non, mais je trouve ça sympathique. Au moins, ça va augmenter les ventes.
Alors. Tout est politique, disait l'écrivain allemand Thomas Mann, même la moto.
Bon, très bien, Daniel, il nous reste 3-4 minutes là.
Eh bien, écoute,
pour nous faire passer cette émission là.
Ce qui est intéressant, au fond, quand on voit la diversité de nos cultures, qu'elles soient engagées, quand on voit le porte-parole de Décra, donc Jean-Yves, c'est toujours intéressant parce qu'il sait introduire là où personne n'oserait pénétrer, il faut être honnête. Donc, merci pour cette introduction furtive.
Je ne relèverai même pas.
Non, mais moi, ce qui m'intéresse, au fond, et les gens qui nous écoutent, c'est qu'au fond, on est deux, l'ami chez moi, pour essayer des vraies motos. Et ça, je crois que c'est véritablement porteur.
Alors, je
n'ai
pas dit que c'était vraies motos. Hein.
C'est quand même pas mal.
On va essayer.
Ça a du poids, quand même.
Ça a du poids, oui. Ça, c'est du bon métal. Oui.
C'est non, du bon en bog à ce moment-là.
Aussi.
Mais pas dans ces... Petit Harley minuscule avec des cylindres rikiki.
C'est vrai. Mais bon, petite chose deviendra grande, selon ma copine. Enfin, tout ça pour dire que, au fond, on recommence une saison étonnante avec, je crois, des évolutions de comportement qu'il va falloir mesurer, parce que Jean-Yves, tu en parlais, les jeunes. Globalement, de nos motos, couillus, tout ce qu'on peut imaginer, n'en ont rien à battre. D'abord, économiquement parlant, c'est inatteignable.
Oui.
Deux, techniquement, comme tu dis tout à l'heure, c'est ce que Christophe disait, on te pique ta TFT, ta moto, bah, tu la mets où tu veux, ça te coûte 1500 balles dans le meilleur des cas. Donc, on retrouve peut-être, je dirais, une éclaircie sur les motos anciennes qui ont 20, 30 ans. Oui. Où les jeunes pourront retravailler dessus, vont pouvoir les bidouiller, comme on a commencé.
Tu crois qu'ils vont faire
nous.
Ça
voilà.
Tu crois
oui,
qu'ils
oui,
vont
je
racheter
pense.
Des motos anciennes
ben oui. Oui, parce qu'en gros, pour 1000-1500 euros, tu peux trouver une moto de 20-30 ans, tu peux travailler dessus et te faire plaisir. De toute manière...
Travailler dessus, il faut avoir un peu de compétences quand même, mécanique. Il faut
oui,
quand même
mais
pouvoir...
ben justement, le métissage de nos cultures va le faire.
Tu t'auto-formes, les motoclubs sont là pour ça.
Exactement. Et je pense que c'est un... Voilà, s'il doit avoir une éclaircie, c'est à ce niveau-là, parce que encore une fois, j'ai vu ces tireurs qui ont des motos. Enfin, il y en a un qui a une moto de 30 ans, une FJR, première génération. Il se régale avec parce qu'il dit je la travaille, je fais moi-même et tout va bien.
De toute façon, on voit l'évolution parce que de plus en plus, les petites cylindrées, les 350, 400, c'est ce qui se vend le mieux.
Oui, c'est le cœur de marché. On est d'accord.
Alors justement, tout à l'heure, on parlait hors antenne des sportsters. C'était à l'époque, c'était l'entrée de gamme. Hein. Harley. On était jeune et on voulait avoir une Harley, on prenait quoi un sportster
parce que le 883.
C'était pas très cher. Et maintenant, c'est fini. Ça n'existe plus.
Ben non, parce que la politique délirante des constructeurs, ils ont dit c'est vrai qu'un concessionnaire préfère à marge équivalente, vendre une moto à 30 ou 40 000 euros qu'un Sportster à 8 000 ou gagne que dalle.
C'est rentable.
Voilà. Mais c'est vrai que le monde Harley a émergé grâce à ces 883, comme Injan est supporté par ses scouts. Faut pas rêver. Voilà. C'est la logique passion et la logique économique. Se ne rencontrent pas, hélas.
Bon, voilà, mission se termine. Christophe.
Oui, on se retrouve le mois prochain. J'ai annoncé avec des événements quand même.
On se retrouve le 3 novembre pour l'émission des motards engagés. Hein.
Oui.
Mais on se retrouvera aussi donc le 16. Hein.
Alors le 16.
Le 16, ce sera un samedi, mais l'émission retransmise le 17.
Je vous rappelle que les apéros de Moto Magazine, c'est tous les vendredis soirs, des vidéos. Et maintenant, vous pouvez participer. Il y a une rubrique casque d'âne. Donc c'est une nouveauté cette année, depuis ce mois-ci. Vous pouvez envoyer une vidéo.
Ok, très bien. Merci Daniel pour toutes ces infos de la Custom Culture. Et merci Yves pour l'interview avec Alexandre. Et on file directement le bas Tourcoing. Voilà.
Exactement.
Et Jean-Yves, c'était super. Aujourd'hui, t'étais bien.
Ouais. Comme d'habitude.
Cette première, comme d'habitude, t'étais très bien. Et on remercie Laurent à la technique. Voilà. Et on passait un bon dimanche. Et on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Salut.